Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission merveilleuse où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle de ce qui se passe dans l'industrie, des news de jeux, des news consoles, PC, tout ça. On passe un très bon moment ensemble en plus de ça. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de recevoir dans cet épisode Escarina. Comment ça va, Maïté ?
Salut Patrick, eh ben, écoute, la grande forme et toi ?
Écoute, ça va. Je suis, comme certains le savent déjà, en quarantaine à Helsinki avant de pouvoir rentrer à la maison à la campagne.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Ah bah rien, je suis passé par Paris et en Finlande, quand tu passes dans un pays qui a beaucoup de cas, eh ben, il faut rester en quarantaine. Donc, j'ai dû louer un studio parce que je ne veux pas aller infecter potentiellement ma femme et mon fils. Et si je rentre à la maison, il faut qu'on reste tous à la maison pendant 15 jours. Et comme le petit, il faut qu'il aille à la crèche parce que sinon, ça ne se passe pas bien pour nous. Bah voilà, je suis en quarantaine isolé.
C'est plus prudent.
En plus, je suis avec ma maman que j'ai ramenée en Finlande. Et comme ça, elle n'aura pas besoin d'être enfermée en France dans son petit appartement. On va pouvoir aller faire des balades dans la forêt.
Tu vois ? T'as eu droit à la canicule quand t'étais en France, si je comprends bien.
Je suis passé entre les gouttes, enfin les rayons de soleil.
Quel chanceux.
C'était pas trop mal, ouais. Et voilà, vous connaissez toute ma vie maintenant. Et ça va pouvoir me... Maintenant que vous connaissez tout, je vais pouvoir parler de jeux vidéo. Mais avant ça, je vais quand même remercier les auditeurs qui permettent à cette émission d'exister. Vous savez que ceux qui soutiennent l'émission financièrement sont ceux qui permettent à l'émission d'exister. Et aujourd'hui, je voudrais remercier spécifiquement Sofiane Deroisi, Peters, Leroy Roux, Ludovic Robert, Kamioku, Alexis Blanc, Thomas, Yannick Bross, ou Boss plutôt, Rive Beach et Olivier Carman. Merci à vous tous et grâce à vous, j'ai une annonce très importante à faire pour tout le monde. Escarina, il y a un truc de fou qui est en train de se passer pour le rendez-vous jeu là.
Je ne suis venue que pour ça.
Pour suivre l'annonce. Alors, ça fait maintenant quoi 6 ans que le rendez-vous jeu existe et j'aime bien le format bimensuel, mais tu sais ce qui est mieux que le format bimensuel ?
Le format hebdomadaire.
Mais oui, Escarina, t'as tout compris. Alors, j'ai pris cette décision complètement folle de passer à un format hebdomadaire. Et comme vous le savez, le rendez-vous tech est passé en format hebdomadaire il y a un peu plus de 2 ans aujourd'hui. Donc, j'ai toujours pensé, quand j'ai travaillé à ces émissions et quand je suis passé professionnel, je me disais que je voulais 2 piliers à mon activité. C'est l'actu tech d'une part et l'actu gaming d'autre part. Et bien là, je vais donc avoir chaque semaine une émission sur l'actu tech et une émission sur l'actu gaming. Chaque mardi, le rendez-vous tech. Chaque jeudi, le rendez-vous jeu. Et donc, couvrir toute cette actu en podcast pour vous. Si vous écoutez les deux, ça vous fera encore plus de Patrick dans vos oreilles. Si vous écoutez l'une d'entre elles, et en l'occurrence le rendez-vous jeu, bah, vous aurez 2 fois plus de Patrick dans vos oreilles. Donc, il y a beaucoup d'avantages au format bimensuel, et je l'aime beaucoup. Mais le format hebdomadaire est évidemment plus adapté à quelque chose qui couvre l'actu, je pense, quand on peut se le permettre. Et grâce à vous, notamment grâce à ceux qui soutiennent l'émission, eh ben on peut se le permettre. Donc, à partir du prochain épisode, de l'épisode 150, en plus c'est un chiffre rond, tu sais quoi, j'ai même ajouté un enregistrement d'épisode pour pouvoir dire c'est au 150 qu'on passe hebdomadaire.
Magnifique.
Ça sera le... Alors, c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, début septembre, le 10 septembre, je crois. Et à partir du 10 septembre, on est là toutes les semaines avec vous, avec en plus, alors, il y a évidemment Escarina qui sera fidèle au rendez-vous une fois par mois, il y aura Jika qui sera fidèle au rendez-vous une fois par mois, et en plus de ça, une autre personne qui sera là une fois par mois avec nous, en plus des invités exceptionnels, hein, et ben ça sera mon ami, mon compère de podcast depuis le tout début du podcast, à savoir Not Danny, Daniel Charby, qui va nous rejoindre pour prendre la troisième place dans ses présences mensuelles. Et ça me fait hyper plaisir parce que Dany, bah, il a déjà été dans le rendez-vous jeu hein, à plusieurs reprises, mais il a commencé l'aventure podcastique avec moi, avec Azeroth.fr, il y a presque 15 ans maintenant, rendez-vous compte, presque 15 ans. Et donc, il sera là tous les mois, il va devenir un membre régulier du rendez-vous jeu. Et ça me fait évidemment hyper plaisir. J'espère que ceux d'entre vous qui suivent l'aventure podcastique depuis tout ce temps seront heureux de le voir revenir, lui et ses excuses bidons quand il perd à Street Fighter. Donc voilà, c'est une grosse annonce, c'est un gros investissement de temps et d'efforts pour la production des podcasts, comme vous en doutez, mais je pense que ça va permettre à l'émission d'être encore meilleure et j'espère que vous l'apprécierez encore plus. Et je remercie d'ailleurs Escarina de se lancer dans cette grande aventure avec moi. Ça fait plaisir de t'avoir à bord du navire.
Ben, c'est une super nouvelle. C'était tout ce qu'on pouvait souhaiter à l'émission. Donc, on croise les doigts pour que ça dure le plus longtemps possible sur ce rythme-là. C'est super.
J'espère. Donc voilà pour ce qui était de ce dont on parlait pour la maintenance interne. Et on va se lancer donc dans l'émission elle-même où on va parler des annonces du DC FanDome, de Nintendo et de rumeurs qui reviennent d'une machine, d'une Switch améliorée, de Microsoft et de Halo. On va parler aussi de la PlayStation 5 et des précommandes qui commencent aux États-Unis et de Fall Guys qui a une carrière incroyablement positive et de plein d'autres choses, évidemment, Fortnite et Apple, etc., etc. Mais on se lance d'abord avec les jeux Batman et affiliés qui ont été annoncés à la conférence virtuelle DC FanDome le week-end dernier. Il y a deux jeux, en fait, qui ont été annoncés. Un pour 2021, c'est Gotham Knights dans la série qui est séparé de la série des Arkham, et Suicide Squad, qui est dans l'univers des Arkham. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais peu importe, 2021, Gotham Knights, 2022, Suicide Squad. Suicide Squad, c'est donc le développeur historique des Batman Arkham, qui sont sans doute les meilleurs titre de jeux vidéo de super-héros jusqu'à peut-être Spider-Man, qu'ils ont développé donc par Rocksteady, développeur hyper apprécié des joueurs. Et ça sera pour 2022. Pour 2021, on a Gotham Knights, qui est développé par le développeur qui avait fait Batman Arkham Origins, mais qui n'est pas dans l'univers Arkham. Et pourtant, c'est avec la famille de Batman, c'est-à-dire Red Hood, Batgirl, Nightwing, Robin, la Bat-Family. Et ça a l'air très proche de ce qu'est la série des Arkham, parce qu'on a vu du gameplay. Par contre, sur Suicide Squad, on n'a pas vraiment vu de gameplay, on a juste vu un trailer un petit peu aspirationnel. Et en plus, c'est assez loin.
Très bien fichu, d'ailleurs, le trailer.
Les deux sont assez bien faits, ouais.
Ouais, carrément. Mmh. Ça fait super envie dans les deux cas, quoi. Enfin...
On est d'accord, surtout si on est fan des séries Batman classiques. Des Batman Arkham. Je crois que les deux suivent la formule, on va dire. C'est des trucs, toi, tu me disais que t'avais pas du tout joué au jeu Batman.
Non, j'ai jamais fait un Batman Arkham. J'ai toujours assisté, on va dire, à des parties en cours. J'avais toujours quelqu'un qui jouait à côté de moi, mais j'en ai jamais fait moi-même, parce que c'était pas forcément ma cam. Mais aujourd'hui, je suis un petit peu plus ouverte d'esprit. Et, et je me dis, pourquoi pas. En tout cas, les deux trailers les deux trailers de jeu font tous les deux envie, je trouve, à différents niveaux. Et pourquoi pas, tu vois, ça m'intéresserait. Why not? À voir.
C'est vrai que c'est des jeux qui ont un certain historique, enfin en tout cas Gotham Knights. Et un truc à noter sur Gotham Knights, c'est qu'on peut jouer en coop sur tout le jeu. Donc ça peut être un atout, ça peut être un petit peu moins bien pour la narration de l'histoire qui est souvent une partie importante de ces jeux-là. Mais c'est intéressant pour jouer en coop, quoi, évidemment.
Et en coop local ?
Non, je crois que c'est uniquement en ligne. Mais bon, les personnages qui semblent se jouer différemment, c'est marrant parce que on a vraiment un ADN qui vient directement de la série des Arkham et ils disent c'est un autre univers. Mais bon, à la limite, peu importe, c'est pas très très grave. On a le jeu, ça a l'air d'être exactement la même chose. C'est vraiment le type de gameplay auquel on a été habitué. Et j'imagine que pour Suicide Squad, ça sera le cas aussi, puisque c'est Rocksteady qui était à l'origine des jeux. Donc, moi, ça me va. C'est des jeux dont le gameplay me plaît énormément. Je pense que si c'est des trucs qui ne vous plaisent pas avec le combat magnétique, il suffit d'appuyer sur le bouton et ça tape l'ennemi qui est le plus proche. Et puis, on fait des coups spéciaux en appuyant sur deux boutons en même temps. Bon, après, il y a une sorte de mécanique presque rythmique qui s'installe dans le jeu. Si ça vous plaît pas, bon, c'est pas ces jeux qui vont vous convaincre, je pense. Mais si on est un petit peu fan du système ou un petit peu fan de Batman, moi je suis pas très très fan de Batman en soi, mais ces jeux-là m'avaient assez convaincu. Puis en plus, Gotham Knights, sur lequel on en sait beaucoup plus, se passe dans la chronologie, dans l'histoire de The Court of Owls, qui est une super série Batman assez connue de 2011-2012, je crois, quelque chose comme ça.
Oui, il me semble que c'est ça.
Ouais. Et ben moi, je viens de le lire, je ne l'avais pas lu, mais à l'occasion du truc, je viens de le lire. Et c'est vrai que c'est pas mal, c'est assez intéressant.
Ah ouais, c'est une super série.
Et la question, c'est quand est-ce que Batman va revenir alors qu'il est censé être mort ? Bon, on s'imagine bien, c'est comme Captain America dans Avengers. Oui, il est censé être mort, mais tout le monde rigole quand... Enfin, évidemment, dans le jeu Batman, on va pouvoir jouer Batman, quoi.
D'ailleurs, juste pour dire, c'est vrai que c'est une super série de comics que je conseille à tout le monde de lire. Et si vous n'avez pas envie de dépenser des 1000 et des 100 pour vous les acheter, sachez qu'il y a des éditions pas chères qui sont vendues en ce moment au supermarché. Je ne sais plus si c'est chez Leclerc ou quelque chose comme ça, je vais aller vérifier. Pour moins de 5€, vous avez l'intégrale de la série de la Cour des Hiboux. La qualité du papier est vraiment sympa. Enfin, pour une édition un peu cheap, ça fait genre format gros magazine. Et ils l'ont fait sur plusieurs comics. Donc, si vous voulez découvrir des épisodes cultes, notamment chez DC, allez-y parce que ça coûte moins de 5€. Et enfin là, pour le coup, la Cour des Hiboux, ça fait partie des. C'est vraiment une série culte, un arc culte chez DC pour Batman, quoi. Voilà.
Et moi, je l'ai acheté sur Comixology. C'était moins de 10$, 9$, je crois, ou 9€, je sais plus. Si vous avez une tablette, c'est une option également. Et ouais, donc c'est la Cour des Hiboux en français, évidemment. Mais c'est vraiment une bonne. C'est une dizaine d'issues, d'épisodes, enfin de numéros. Et c'est vrai que c'est hyper bien écrit, un petit peu original. Bon, c'est quand même Batman sombre et noir parce que Batman, c'est un goth, quoi. C'est un emo goth qui se. plein tout le temps, mais oui, c'est du bon Batman, on va dire. Nintendo, tiens, eux, c'est pas des gens qui se plaignent tout le temps, c'est des gens qui font des Nintendo Direct surprises sans même les annoncer maintenant. Tu sais, ils ont même plus besoin d'annoncer les trucs. Tout à coup, ils te disent « Oh, on est en live !» C'est comme un streamer, tu sais. « Oh, on est en live !» Et tout le monde se précipite pour voir ce qu'ils sont en train de faire.
Ça leur coûte de moins en moins cher, au final.
C'est vraiment hyper simple à faire, leur Nintendo Direct, aujourd'hui. Avant ça, on va parler de ce qu'ils ont parlé. Franchement, c'était pas incroyable. Hein. C'était uniquement des éditeurs tiers. Il n'y avait pas de gros titres attendus. On peut peut-être en parler maintenant. Est-ce qu'il y a des titres que tu as retenus de ce Nintendo Direct ?
Non, moi, y a la seule chose qui m'a marqué, et encore, je ne sais même pas si c'était dans le Nintendo Direct, c'était l'annonce sur le prochain modèle de la console. Quoi, mais...
Ah oui, non, ça, c'est pas une annonce, hein, attention, c'est une rumeur. Faut pas confondre. C'était une rumeur qui est ressortie et qui, selon laquelle, on aurait en 2021 la préparation d'une grosse d'une version mise à jour de la Switch, qui serait plus puissante, qui gérerait la 4K et qui aurait un processeur plus puissant pour afficher des graphismes plus performants. C'est une rumeur qui existe depuis quasiment la sortie de la Switch. Hein. On va dire depuis 2018-2019, on l'entend régulièrement. Elle avait un petit peu disparu ces derniers temps parce qu'ils avaient confirmé, ils avaient affirmé qu'en 2020, on n'aurait pas de modèle plus puissant de la console. Mais là, elle revient. Et ça expliquerait pourquoi Nintendo serait en mode sous-marin pendant 2020, parce qu'ils disent on laisse les gros avoir leur année, les gros, c'est-à-dire les Sony et les Microsoft avec les grosses consoles, on leur laisse prendre leur année, et nous on revient en 2021, non seulement avec un nouveau modèle, mais en plus avec une série de jeux énormes. On parle de Metroid Prime, on imagine qu'il pourrait y avoir Bayonetta 3, enfin Breath of the Wild 2, qui arriverait dans un mouchoir de poche avec cette nouvelle console. Évidemment, ça serait encore une occasion d'en vendre des palettes entières. Il y a des gens qui se disaient « Mais une Switch en 4K, quel intérêt ?» Moi, je ne comprends pas cette réaction parce qu'une Switch en HD, quel intérêt aussi ? C'est pareil. C'est juste pour que ça tienne avec le standard que les joueurs ont dans leur maison. Tu as une télé en 4K, tu veux bien afficher la même chose mais en mieux défini. Et puis, si en plus, ça peut faire ça peut afficher avec une meilleure fréquence, meilleur FPS, etc. Pourquoi pas ? Là où ça devient un peu compliqué, c'est si la machine a vraiment des performances très différentes. Si elle peut faire du ray tracing, à la limite, on vient dans les questions entre la Xbox Series X et la Xbox One. Le ray tracing, c'est pas trop dur à enlever sur la version qui peut pas la faire, mais si tu as vraiment des performances beaucoup plus importantes, est-ce que les jeux sont développés pour la nouvelle ou pour l'ancienne ? Est-ce qu'ils sont compatibles avec les deux, avec des performances différentes ?
Ouais, c'est toujours le problème. Et en tout cas, là, ce serait forcément une version dockable, parce qu'on parle de résolution 4K, donc ce ne sera pas une version améliorée de la Switch, je sais plus comment ils l'appellent.
La Switch Lite,
ouais, merci.
Ouais. Non, bien sûr, ça serait une version de Switch classique, Switch Pro, Switch 2 ou ce que c'est. Mais en fait, on n'est plus à l'époque où... Enfin, Nintendo a toujours fait des mises à jour de leur plateforme, de leur machine, avec la DS, avec la Game Boy, avec toutes les machines portables. Et là, ça serait normal et il y a plein de gens qui seraient prêts à dépenser. Rien que pour la 4K, je suis sûr, s'il y a des nouveaux jeux... qui sont un petit peu optimisés pour la nouvelle machine. Il y a des gens, des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui achèteraient sans sourciller une nouvelle machine, quoi. J'en suis convaincu qu'ils feraient la 4K. Et si en plus ils sortent beaucoup de jeux qui sont améliorés, parce que pourquoi pas des jeux optimisés pour la nouvelle version. C'est pas comme la 3DS pour moi. Il y avait eu la New 3DS, bien sûr, et il y avait des jeux qui étaient optimisés pour la New 3DS, mais il y en a eu genre 2 ou 3. Et ça, je pense que c'est l'époque où ça fracturait complètement la base installée si tu sortais une nouvelle machine pas compatible. Aujourd'hui, ouais, la philosophie, ça serait beaucoup plus de se dire, PS Pro, PS4 Pro, Xbox One X, etc., bah, tu as un écosystème, tu as 2 ou 3 machines, et ce n'est pas juste une question de fréquence d'affichage ou de résolution. Si tu as une machine qui est plus puissante, bah, tu peux avoir des graphismes plus poussés et tu as 2 versions du jeu, en fait. La version pour la nouvelle machine, la version pour l'ancienne. Et tous tes jeux sortent pour toutes les versions de la machine. Et Nintendo exige des développeurs, en plus avec la base installée, ils peuvent exiger plein de choses, exige des développeurs que les jeux qui sortent soient compatibles avec les deux, avec, ils l'espèrent, des améliorations substantielles pour la nouvelle machine. Pourquoi pas ? Il y aura aussi le DLSS. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un truc qui permet d'améliorer grandement, notamment, ça peut être utile pour le ray tracing avec une résolution moindre qui est upscalée avec du machine learning qui est de qualité complètement bluffante. Donc, ça permet sur des machines moins puissantes d'avoir des effets graphiques beaucoup plus poussés et ça offre beaucoup de possibilités. C'est une technologie de NVIDIA qui équipe avec la... Tegra X1, la Switch actuelle, il pourrait avoir un Tegra X2 ou X3 pour une Switch updatée. C'est complètement logique, en fait. C'est complètement logique. Et moi, je me jette dessus si le moment où elle est annoncée, quoi.
Oui, ce qui fait qu'il rejoindrait pas mal ce que font les autres constructeurs aussi, justement, dans leur modèle de console.
C'est ça.
Avec des améliorations hardware. Et donc, du coup, juste pour répondre à ta première question, il n'y a pas vraiment de jeux qui m'ont sauté aux yeux. Il y en a qu'un dont ils ont reparlé de façon plus précise, c'est le jeu musical Kingdom Hearts. Donc, oui. Je ne sais plus, Kingdom Hearts Melody of Memory, je crois.
Certainement, un truc du genre, ouais.
Et donc, quand on en avait entendu parler il y a déjà quelques semaines, quelques semaines, voire quelques mois, à l'époque, je m'étais dit, j'espère que ce sera comme Final Fantasy Theater Isam qui était sorti sur 3DS et que j'avais adoré, c'est un de mes jeux préférés sur la 3DS. Et au final, les vidéos montrent des choses un peu différentes, c'est des petits mini-jeux. Alors après, moi, je ne suis pas du tout une joueuse de Kingdom Hearts. Mais j'aime beaucoup l'OST de ce jeu, ça m'a pas empêché de l'écouter. Et je me dis, bon, un petit jeu musical mignon dans un univers Disney cross Final Fantasy, pourquoi pas, voilà.
Ouais, c'est pas un truc qui te fait exploser la tête, mais c'est un truc pourquoi pas, allez, ça peut être sympa, quoi.
Voilà, où tu redécouvres, c'est des petits jeux musicaux sur les plus grandes musiques du jeu. C'est le genre de titre dont je peux être assez friande. Mais à part ça,
il y avait pas grand chose. Il y avait plusieurs titres musicaux d'ailleurs. Ils ont fait un petit passage sur le Just Dance. Il y avait un jeu de Namco, un RPG basé sur Taiko no Tatsujin. Vous savez, le jeu de tambour japonais, qui est un RPG qui s'appelle Rhythmic Adventure Pack pour Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure Pack. C'est original. Il y a Puyo Puyo Tetris 2 qui arrive pendant les vacances, enfin à Noël. Et moi, l'autre que j'ai retenu, parce que je suis vieux, c'est Square Enix qui va sortir Final Fantasy Legends sur Game Boy. C'est les trois jeux qui s'appelaient Saga au Japon, qui sont Final Fantasy Legends aux États-Unis, que moi, j'avais acheté sur ma Game Boy à l'époque, le premier ou le deuxième, je ne sais plus. Et c'était l'époque, tu sais, où sur Game Boy, tu avais des versions Game Boy portable des jeux que tu adorais sur console de salon. Et tu disais, mais c'est incroyable, je peux jouer à Final Fantasy en dehors de chez moi, mais c'est fou! Et c'était un petit sur Game Boy pourri en trois couleurs, machin. Mais c'était super bien. Bon, par contre, je te dis, ça m'a intrigué parce que c'est marrant, parce que ça me l'a rappelé, mais je ne vais jamais l'acheter. C'est juste que c'est marrant.
Parce qu'on est d'accord que c'est pas du tout un remake ou un truc comme ça. C'est vraiment le jeu de l'époque transposé sur Switch.
Complètement, ouais. Et ils te disent pardon, vas-y.
Non, parce que, alors, tu vas peut-être me détester, mais je n'avais jamais entendu parler de Final Fantasy Legends. Je l'ai découvert grâce à toi, grâce à tes sélections de sujets. Je ne savais même pas que ça existait. Et donc, ça n'a rien à voir avec Final Fantasy 1, 2, 3. C'est vraiment des jeux qui sont complètement séparés et qui sont des versions portables, les premières versions portables, j'ai cru comprendre, de l'univers de Final Fantasy.
C'est ça. En fait, je ne sais même pas si c'était... Enfin, l'univers de Final Fantasy, il change à chaque titre, donc de toute façon, ça n'a rien à voir. Mais au Japon, c'était Saga. Donc, c'est le début de la série Saga. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment... Ça a été renommé aux États-Unis pour plus en vendre parce que les gens connaissaient plus Final Fantasy. Et c'est normal que tu ne connaisses pas parce qu'il n'est jamais sorti en Europe. Donc, moi, je l'ai importé des États-Unis. Enfin, je l'ai acheté en import sur Game Boy, mais il n'était pas sorti en Europe. Donc, oui, c'est normal que tu ne connaisses pas.
Ça me rassure. Parce que c'est quand même une série que j'aime beaucoup. Et je me disais, mais j'ai jamais entendu parler de ça, quoi.
Écoute, si tu veux la prendre sur ta Switch, les contrôles sont tellement simples qu'en fait, tu peux virer les Joy-Con, prendre la Switch en vertical. Et donc, tu auras les contrôles sur la Switch elle-même. Et l'écran est tellement petit et tellement moche, tu peux jouer juste avec la Switch sans les Joy-Con. Et ça te fait une émulation de la Game Boy. Donc, tu pourras jouer comme à l'époque, quoi.
Alors, d'un côté, je me dis, ça a l'air cool dit comme ça. Mais le côté, c'est tellement moche, je l'avoue que ça le vend un peu moins. Bon.
Disons que ça a un charme d'antan, les jeux Game Boy. On va dire ça comme ça. Mais c'est marrant parce que quand j'ai entendu la musique et les petits sons Game Boy tu vois, dans la promo, ça m'a tout de suite je me suis remémoré tout ça. Ouais.
Ah, tu m'étonnes.
Bon, une autre boîte qui se remémore des trucs, c'est Microsoft avec Halo, qui, visiblement, Halo Infinite n'est pas en super bonne position. Enfin, on le savait puisqu'elle a été décalée à 2021 et qu'il va rater la sortie de la Xbox One Series X, alors que c'était censé être son porte-étendard. Mais on a eu la confirmation... Il ramenait un vétéran de Halo, Joseph Staten, qui était en fait un ancien de chez Bungie, à l'époque où c'est Bungie qui développait Halo. Pour Halo 1, 2, 3, il était à l'écriture, si je ne me trompe pas. Et il y a eu donc du rififi chez 343 Industries, qui développe Halo Infinite. Et ils ont donc ramené quelqu'un pour aider à le remettre sur les rails, ce qui laisse penser que ce n'est pas juste un délai pour peaufiner. Tu vois, ce genre de mouvement, alors on ne peut pas vraiment savoir, mais ce genre de mouvement, ça laisse penser qu'il y a des problèmes peut-être un petit peu plus profonds dans le développement du jeu et qu'il y a des choses... Alors, il était à la narration sur Halo 1, 2, 3, puis il a quitté Bungie juste avant la sortie de Destiny, mais il avait un rôle visiblement plus important au fur et à mesure des épisodes. Ce qui est sûr, c'est qu'il semble y avoir des choses plus... profonde à corriger dans Halo Infinite que juste un peaufinage. Par contre, 343 a confirmé que le jeu était bien ciblé pour 2021 et pas 2022. Il y avait des rumeurs qui commençaient à se propager selon lesquelles en fait ça va pas du tout, ça va être décalé à 2022. Bon, après rien n'est impossible, mais il cible bien 2021.
Ce serait pas un si gros décalage au final, quoi.
Bah, ça dépend quand en 2021. Hein. Si c'est.
Oui.
Disons que. S'ils sortent première moitié de 2021, c'est difficile de changer des choses vraiment profondes dans le jeu. S'ils sortent vers la fin de l'année, ce qui est possible, moi j'imagine bien une saison 2021 fin d'année avec un gros coup marketing Halo Infinite, possible. Là, ils ont peut-être un petit peu plus de temps pour changer des choses plus fondamentales du jeu. Mais s'ils sortent en mars, par exemple, disons que cette annonce laisse penser qu'il est moins probable qu'il sortirait en mars.
Mais... Ouais. Moi, j'aime bien quand on dit on ramène un vétéran, ça fait je trouve que le vocabulaire militaire, comme ça, tu te dis que les mecs, ils sont passés par une guerre, tu vois, ils n'ont pas fait un jeu vidéo, ils ont. Donc, bon, bah, écoute, si ça peut leur ramener quelqu'un avec de l'expérience et que ça les aide à se remettre sur le droit chemin pour une sortie qui se passe mieux que si elle s'était passée sans décalage, tant mieux pour eux.
C'est sûr. Moi, ça me fait penser à. C'est Nomura, c'est ça que. C'était Tetsuya Nomura qui était revenu pour sauver Final Fantasy XV parce que le jeu commençait à se perdre dans des... Enfin, il était impossible à finir et à sortir. Et Nomura était arrivé, il avait dit « Ok, bon, maintenant c'est fini les conneries, on voit ce qu'on a et on va tout ficeler pour que ça puisse tenir en un jeu. » Il y avait eu des problèmes sur le jeu, bien sûr. C'est peut-être pas exactement la même chose, mais c'est ce à quoi ça me fait penser. C'est genre, bon, vous avez eu 5 ans... Maintenant, on amène un... c'est quoi dans Jean Reno dans... Léon, j'allais dire Raymond.
C'est pas la même version. C'est la version Arte, je pense, Raymond.
C'est ça, Raymond. Jean Reno dans Raymond. C'est quoi, c'est le nettoyeur? Je sais plus.
Mais il me semble que c'est ça, ouais.
Bon, donc ça me fait penser à ça. Ça me fait penser au nettoyeur. Donc bon... on en saura plus dans quelques temps, bien sûr. Et puis, dernière news un petit peu plus importante, du côté de Sony, plus importante que Microsoft, c'est pas ça, c'est que plus importante que les autres news qu'on couvrira après. Ils ont annoncé qu'ils allaient ouvrir les précommandes de PlayStation 5 directement sur leur site web. Et pour le moment, ça ne concerne que les États-Unis. Et le langage est un petit peu particulier. En fait, ils proposent de précommander un nombre limité de PlayStation 5 sur leur site web et ils disent qu'il n'y en aura qu'un nombre limité et que ça sera un first come, first serve, premier arrivé, premier servi. Ouais, voilà, Patrick est le français, merci. Premier arrivé, premier servi. Mais... Disons qu'on peut évidemment le comprendre comme il y aura 14 PlayStation et vous avez intérêt à être rapide. Il y aura 14 PlayStation dans le monde et vous avez intérêt à être rapide. Mais on peut aussi le comprendre comme nous, sur notre site, on en aura un nombre limité, mais évidemment, elles seront en vente ailleurs. Et ça, c'est beaucoup plus crédible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que Sony qui va vendre des PlayStation 5, évidemment. Mais bon, voilà, ça va arriver dans les jours à venir. Il faudra s'inscrire et premier arrivé, premier servi, on pourra acheter... une console, il y a une liste des trucs qu'on peut acheter, c'est limité bien sûr, et c'est uniquement pour les États-Unis en ce moment, à voir si ça sera étendu aux autres pays plus tard.
Elle est vraiment étrange, cette com. Elle a perturbé beaucoup de gens, je vois pas trop l'intérêt pour eux de faire ça, enfin, quel intérêt de précommander sur leur site plutôt qu'ailleurs, alors est-ce que tu pourras précommander plutôt que les autres gens, mais au final tu auras ta console en même temps, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre.
Moi, je me demande si c'est pas pour récupérer des emails, tout simplement. Tu te fais ta mailing list, oui. Tu réactives les gens qui n'ont pas... tu vois, peut-être même des gens qui ne se sont pas inscrits au PlayStation Plus, je ne sais pas.
Oui, c'est peut-être juste ça. Juste avant que tu passes au sujet suivant, je, par rapport à ce qu'on disait juste avant, parce que sinon je pense qu'on va se faire assassiner par les fans de Final Fantasy. En fait, par rapport à ce qu'on disait sur Nomura, il était directeur créatif de Final Fantasy XV et il s'est fait éjecter et remplacé par Tabata. Qui vient, lui, de Kingdom Hearts. Enfin, voilà, il a fait... Après,
c'est Tabata, le producteur. C'est lui, le Raymond.
C'est ça, c'est lui, le Raymond. Il était co-réalisateur et il a été propulsé réalisateur exécutif dès que Nomura s'est fait pousser dehors, quoi. Voilà, je le dis parce que sinon, on va se faire...
Non, mais t'as raison. Erreur impardonnable, je suis tout à fait d'accord. Je savais bien qu'il y avait un Nomura là-dedans, mais oui, c'était Tabata, le nettoyeur. Okay.
C'était lui, le sauveur. Ouais. Ah bon. Avec des guillemets, parce qu'après, on voit ce que ça a donné FF15, tout le monde n'a pas trouvé ça.
Il y avait un chapitre qui était problématique et qu'ils ont corrigé, mais dans l'ensemble, le jeu était pas trop mal, mais c'était pas... oui, bon, on pourrait en parler longtemps. C'était pas Final Fantasy XIII, on va dire. Il y a des amoureux de Final Fantasy XIII qui vont me détester.
Ouais, j'ai beaucoup aimé FF13, donc j'ai pas de problème
avec ça. T'es pas la seule. Un autre truc dont je voulais parler, c'est le succès de Fall Guys, qui a réussi à non seulement devenir le jeu le plus téléchargé du PS Plus de l'histoire, mais en plus, il s'est vendu à 7 millions d'unités sur Steam dans le même temps. C'est assez incroyable parce que la disponibilité sur PS Plus fait que il est disponible entre guillemets gratuitement pour une énorme quantité de joueurs, mais en plus de ça, en même temps, il s'est plus que très bien vendu. 7 millions d'unités sur Steam, vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Et pour vous donner un point de comparaison sur les ventes Steam, notre ami Oscar Lemaire a tweeté que Rocket League, qui était sorti dans un contexte un petit peu similaire, c'est-à-dire pendant l'été sur Steam et PS Plus, gratuit sur PS Plus, il était devenu, là, je lis son tweet, il est devenu une des plus grandes success stories de la génération et il lui a fallu 8 mois pour atteindre 4 millions sur Steam. Vous vous rendez compte ? 7 millions en 3 semaines quoi, pour Fall Guys sur Steam contre 8 mois pour 4 millions sur Steam pour Rocket League. Et tout le monde s'en souvient encore de Rocket League. Bon, ils ont bien géré leur croissance également, Rocket League. On ne sait pas si Fall Guys aura une vie aussi longue, mais en tout cas, ils y travaillent et ils ont déjà la saison 2 qui va arriver là, qui est en train d'arriver aujourd'hui. Il y a plein de choses qui se passent. Mais moi, quand il est sorti, je pensais que tout le monde l'aurait oublié au bout d'une semaine. C'était très drôle, hein, très sympa. Je pensais que tout le monde l'aurait oublié au bout d'une semaine. Mais ils ont l'air de savoir, de réussir à gérer leur succès, quoi.
Moi, je suis comme toi. J'ai fait la bêta et j'ai trouvé que ça tournait vite en rond. Enfin, en gros, que mon plaisir de jeu ne se renouvelait pas beaucoup d'une partie à une autre. Après, c'était que la bêta. Et je me suis dit, bon, ça va amuser les gens quelques semaines et ça s'arrêtera. Mais c'est vrai que ces chiffres-là, ils sont assez affolants. Après, je me rappelle pas qu'à la sortie de Rocket League, il y ait eu un battage médiatique, notamment au niveau des streams Twitch, comme ça a été fait par Fall Guys, et comme c'est de plus en plus la mode de le faire pour plein de jeux, on l'avait vu avec Valorant, etc. Mais c'est cette technique de dire on fait streamer le jeu à un maximum d'influenceurs et on distribue des clés bêta pour monter la hype. Et je ne me rappelle pas que ça a été fait de façon aussi agressive avec Rocket League. J'ai l'impression que les habitudes là-dessus, autour de ça, sont en train de changer et que ça crée une espèce de hype où tu as des chiffres hyper gonflés en tout début de vie du jeu. Et après, tu vois, typiquement Valorant, on en entend parler. Enfin, arrête-moi si je dis des bêtises, hein, mais alors que c'était un jeu qui était sur toutes les bouches au début, notamment via cette technique de passer par les influenceurs et les Twitchers. Donc moi, je suis vraiment pas très friande. Et pousser les gens à aller regarder les streams pour avoir des clés, etc. J'avoue que je suis un peu allergique, quoi. Mais
comprends, ouais, c'est vrai.
Est-ce que ça peut expliquer aussi que les jeux atteignent des nombres de joueurs aussi faramineux dès le début comparé à des jeux
là,
un
y a
peu
quand même,
plus vieux?
Il y a quand même un truc qui se passe avec Fall Guys. Hein. 7 millions est le jeu le plus téléchargé de l'histoire du PS Plus.
Ouais.
C'est quand même ça va un petit peu plus loin. Tu as raison, Valorant, il a un petit peu disparu des esprits, mais il était un petit peu artificiellement gonflé, je suis d'accord. Il y a aussi l'époque.
Il était offert sur le PS Plus en plus. Hein. Il était gratuit, entre guillemets, pour les gens qui avaient un abonnement. Mais,
On parle, oui, pour Fall Guys, bien sûr. C'est de ça qu'on parle quand on dit le plus téléchargé sur PS Plus. Mais c'est vrai que c'est plus tout à fait la même époque non plus. On n'est qu'à 5 ans de la sortie de Rocket League, c'était 2015, pour ceux qui s'en souviennent. Et cette culture de Twitch a beaucoup évolué en 5 ans, même si on a l'impression que ce n'était pas il y a si longtemps, 5 ans, 2015. Bah, Twitch n'était pas du tout aussi gros. Donc c'est vrai que ça peut contribuer à faire exploser la popularité d'un truc qui prend beaucoup plus vite que ça n'était le cas il y a 5 ans. C'est tout à fait possible. Ouais. Mais moi, ça m'inspire aussi... Autre chose, c'est ces incroyables succès qu'on voit pour les jeux indés qui réussissent à devenir, enfin qui sont des trucs souvent un petit peu des projets sur lesquels des petites équipes ont énormément travaillé avec une vision très spécifique, à l'opposé de ce qu'on trouve dans les AAA, mais qui rencontrent un succès commercial vraiment incroyable. En fait, c'est... le meilleur des deux mondes, c'est une sorte d'alliance entre le capitalisme et l'artistique, tu sais. Et on a des jeux qui sont des jeux faits avec beaucoup d'intentions d'auteur qui rencontrent un succès commercial incroyable. Et on a eu des tonnes d'exemples ces dernières années. Enfin, on pense à Fall Guy ici, il y a Rocket League évidemment. Il y en a des tonnes qu'on pourrait citer, enfin Dead Cells, Hollow Knight, même des titres un petit peu plus modestes comme Gris, ou enfin je sais pas, je pourrais en citer des tonnes et des tonnes. Depuis l'avènement du Xbox Live Arcade, on va dire, avec Braid à l'époque, il y a des jeux, enfin c'est un système qui fonctionne hyper bien. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont grincheux, qui se plaignent, et évidemment il y a des gros problèmes dans l'industrie du jeu vidéo aussi, et Dieu sait qu'on s'en fait l'écho dans cette émission, j'espère qu'on le fait dignement. Et je trouve qu'on a des histoires de succès qui prouvent à quel point ça peut fonctionner aussi, quoi, à tous les points de vue. Les AAA sont dans leur rôle, il y a des AA qui sont dans leur rôle aussi, et on a des indés qui trouvent un succès, mais inimaginable, il y a même 10 ans. Ce genre de truc, c'est fou, quoi. C'est une petite équipe qui a suivi sa vision et qui rencontre un succès commercial incroyable. Et il y a plein d'exemples, c'est pas juste un. En plus du fait que les jeux, entre guillemets, gratuits sur PS Plus ou Game Pass, ou etc., donnent une visibilité pour le coup, vraiment, contrairement à ce qu'on dit souvent sur Internet, il ne faut pas travailler gratuitement pour donner de la visibilité. Bon, bah là, d'une part, ce n'est pas gratuit parce qu'ils sont payés par les plateformes, mais en plus, ça donne une visibilité et ça se retranscrit en un succès par ailleurs par les ventes sur les autres plateformes. C'est vraiment tout bon. Et les indés, avec cette puissance de frappe numérique qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'imprimer des CD et de les vendre en magasin et de faire des marges avec les... Enfin, de donner une partie des marges aux boutiques, etc., et à la fabrication. Ça rend tout ça possible. C'est... Enfin, je sais pas, moi, ça m'émerveille, quoi. Je trouve ça hyper positif.
Ouais, c'est assez enthousiasmant. Après, je pense que justement, la force de ces petits studios-là, c'est aussi de se lâcher un peu plus, d'avoir moins de pression, peut-être moins de pression de la part des éditeurs ou des choses comme ça, et d'être un peu plus libre dans leurs propositions. Et du coup, ils font des propositions qui sont plus originales. Et je pense notamment que c'est des succès qui passent énormément par la communication des streamers. Tu vois, typiquement Fall Guys, c'est un super jeu à streamer parce que c'est un jeu qui est drôle, c'est un jeu multijoueur. C'est un jeu compétitif mais qui se prend pas au sérieux, et du coup ça c'est des choses qui fonctionnent hyper bien sur des plateformes de... Bon, je vais pas toutes les citer, mais à chaque fois je dis Twitch par simplicité, mais Twitch et consorts. Et donc du coup je pense que les gens prennent beaucoup de plaisir à regarder leur streamer préféré s'amuser là-dessus, et ça crée une hype autour du jeu. Enfin tu vois, c'est de la pub facile pour les petits créateurs. Et donc à partir du moment où ces petits studios arrivent à se mettre en relation avec des influenceurs qui vont vraiment s'amuser sur le jeu, je pense que c'est aussi ce que les gens recherchent, s'amuser sur le jeu vidéo, c'est un peu la base, et que du coup tu as une réussite qui peut se créer autour de petits titres comme ça qui sont originaux, que ce soit par la proposition de gameplay ou par le graphisme. Et du coup je pense que là, c'est vraiment la force de ces petits studios-là, c'est d'avoir la liberté d'offrir des choses différentes. Et puis, bah, ça marche, tant mieux pour eux. Ça marche pas, bon ben, soit ils n'en survivront
ça
pas.
Ça peut être compliqué, soit, bien sûr. Ouais.
Soit ils passeront à autre chose, mais tu sens que les enjeux sont pas les mêmes et que c'est peut-être aussi ça qui fait que leurs propositions sont différentes et que heureusement que
c'est
le genre D est là.
Ouais. Non, mais c'est sûr. Mais c'est exactement ça. Quand je dis le triple A est dans son rôle, c'est évidemment ça. C'est-à-dire que quand les budgets sont plus élevés, sont plus importants, tu peux prendre moins de risques. C'est normal. Et quand tu as un budget moins important, bah, tu peux explorer des choses. C'est exactement le but et l'intérêt du jeu indé. Parce que si un jeu indé va te proposer de faire un truc qui s'est déjà vu partout ailleurs et qui suit les formules du genre, bah, y a des triple A qui vont faire ça beaucoup mieux. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, évidemment, les indés, ils vont aller chercher des choses plus intéressantes, plus différentes, pas forcément intéressantes. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour les triple A aussi, vous le savez. Mais ils vont chercher des choses un petit peu plus originales, un petit peu plus risquées. Et c'est exactement leur rôle, quoi. C'est pour ça qu'ils ont une certaine force. Et c'est vrai, moi, quand je pense au numérique, je pense toujours à la distribution, mais tu as complètement raison. C'est aussi le fait que numériquement, on peut avoir cette publicité et cet emballement médiatique avec le stream et peut-être d'autres choses aussi, et YouTube et tout ça. Mais c'est vrai, il y a plein de jeux qui bénéficient de cette visibilité qui est donnée plus facilement avec ces nouveaux éléments des médias, en plus de ceux qui existaient avant, qui sont hyper importants pour ça. C'est tout un écosystème qui fait que c'est possible. Mais... ouais, moi, ce qui me frappe, c'est le résultat au final. Il y a des indés, et ce n'est pas qu'un seul. Je sais qu'évidemment, ce n'est pas tous. Hein, ce n'est pas tous qui réussissent. Et je ne veux pas donner cette impression. Mais ce n'est pas non plus un seul. Il y a énormément de studios. Enfin, tous les quelques mois, on entend « Ah, tel studio a vendu 500 000 copies de son jeu indé ou 1 million de copies de son jeu indé ».
Bah, regarde ce qui se passe avec Asobo en ce moment, qui avait commencé avec A Plague Tale et qui continue avec Flight Simulator. Hein.
Ouais. Bon, Flight Simulator, c'est un peu particulier. Ils ont l'argent de Microsoft derrière. Donc, mais c'est oui. Un petit studio qui a réussi avec A Plague Tale et d'autres choses avant. Mais il y en a plein. Je veux dire, on peut même A Plague Tale, il a pas trop mal marché du tout et il fait partie de ces jeux dont on se souvient et dont on parle. Dans les conversations, au même titre qu'on va parler d'un Assassin's Creed ou d'un autre gros jeu, tu vois. Ouais. C'est des studios beaucoup plus modestes. Après, il y a des studios qui sont carrément une à cinq personnes qui font des jeux qui marchent super bien aussi. Il faudrait faire une liste.
Stardew
Valley. Ouais, bah Stardew Valley, c'est carrément un mec. Mais ouais,
Minecraft.
Non, mais il y en a plein. Enfin, je sais pas, ouais, Undertale. Ouais. Si on remonte un petit peu plus loin, The Binding of Isaac. Enfin, mais il y en a plein. Il y en a des tonnes. Children of Morta l'année dernière.
Il y en a des tonnes, mais je pense que sur la totalité des jeux indés qui sortent, au final, c'est vraiment une infime minorité.
Non, mais comme tout.
Mais qui prennent beaucoup de place dans le paysage vidéoludique, enfin qui prennent un statut culte au même rang que des jeux qui ont eu des millions de dollars de moyens.
Mais c'est même plus que ça, je trouve. Et je ne sais pas quel est le pourcentage, mais je suis sûr qu'il y a aussi des tonnes de jeux. Enfin, j'ai mis même dans les notes, je suis sûr qu'il y a des jeux qui ne connaissent pas ce succès phénoménal sans aller jusqu'à Dead Cells ou Fall Guys, qui sont des trucs, enfin là c'est le jackpot. Mais il y a des jeux qui sont des tout petits trucs qui vendent quelques dizaines de milliers de copies, et ça suffit à faire vivre le développeur. Mais ce n'est même pas forcément de ça que je parle. Mais regarde, j'ai mis dans les notes de l'émission, comment il s'appelle Nour, qui est un jeu entre l'expérience artistique, Instagram et la bouffe. C'est un jeu basé sur la physique où tu vas organiser ta bouffe. Et il y a 20 types de bouffes différentes qui sont modélisées de manière un petit peu, c'est un petit peu comme un rêve. Et c'est, enfin, faut aller voir le trailer. Ça s'appelle Nour, N-O-U-R. C'est hyper bizarre. Ça arrive sur PS5 et c'est des trucs, mais enfin, tu vois, c'est vraiment une recherche d'auteur complètement. Un truc what the fuck. Il y a Airplane Mode qui est, selon son développeur, le simulateur de vol le plus réaliste au monde. Airplane Mode, c'est un jeu de vol où tu ne vas pas être dans le cockpit, tu vas être un passager. C'est-à-dire que tu viens t'asseoir dans ton Boeing et puis tu as les annonces de sécurité, on vient t'amener de la bouffe, tu dois chercher ton téléphone et le mettre en mode avion. Enfin, tu vois, tu es juste assis dans la cabine de l'avion, quoi. Mais quel est le fuck ?
C'est,
tu vois, c'est des... et il y a plein de petits jeux comme ça. Tu te dis encore PC Building Simulator, mais il y a plein de petites... Enfin bref, très long pour dire qu'on a un écosystème de jeux vidéo qui est quand même qui a une richesse et un succès. Je sais qu'on aime tout critiquer tout le temps, et encore une fois, hein, on n'est pas les derniers pour critiquer, donc me faites pas dire ce que je dis pas. Mais incroyable ce qu'on a comme richesse dans cette industrie et dans ce média, et pas juste des artistes maudits. On a des indés qui sont des vrais indés, des petites équipes qui connaissent un succès de fou. Enfin, je suis désolé, le système dans son ensemble, il fonctionne hyper bien. Encore une fois, pas parfait, il y a plein de choses à critiquer et on les critique. Mais il fonctionne hyper bien. Enfin bon, bref.
Moi, oui, parce qu'aujourd'hui, les gens ont les outils et les moyens de mettre leur jeu à disposition de façon beaucoup plus simple qu'il y a presque 10 ans.
Des intermédiations. Moi. Bonheur. Bon. Vous savez, il y a beaucoup de bonheur dans la vie. Il y a évidemment le bonheur de jouer à des bons jeux vidéo, mais il y a aussi le bonheur de soutenir le contenu qu'on apprécie. Cette transition est totalement folle. Le contenu que vous appréciez, c'est peut-être le rendez-vous jeu. Et si vous voulez le soutenir, bah vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeu. Et j'ai quelques annonces à vous faire. En fait, la rentrée, ça va être la rentrée de folie pour l'activité podcastique de Patrick. On va avoir chaque semaine du mois de septembre un nouveau truc qui arrive et qui s'adresse à la communauté en général et à la communauté des gens qui soutiennent l'émission en particulier. La première semaine de septembre, on va avoir l'ouverture au public d'une partie de notre communauté Discord privée. On a un Discord qui est disponible pour certaines personnes qui soutiennent les émissions que je fais. Et un endroit super cool, club privé, machin. Et on va ouvrir une partie de ce Discord à tout le monde, donc à tous les patriotes et au public, un endroit pour discuter des derniers épisodes. Donc, j'aurai un lien qui sera disponible début septembre pour aller sur ce Discord. Et ça va arriver première semaine de septembre. Ça va être un truc sympa pour la communauté, je pense. Il y a aussi la newsletter qui va devenir hebdomadaire. On a une newsletter qui est mensuelle jusqu'à maintenant qu'on faisait en test. Va devenir hebdomadaire. Donc, moi, je fais énormément de veille sur la tech et le jeu vidéo. Je vais vous livrer les meilleurs articles que j'ai trouvés dans la newsletter toutes les semaines. Je pense qu'elle vous plaira, elle est assez sympa. J'aurai un lien dans les notes de l'émission pour que vous puissiez vous abonner. Sinon, c'est sur notepatrick.com, il y a un truc pour s'abonner très très simple. Donc, newsletter assez cool. Deuxième semaine, bah, comme vous le savez, on a le rendez-vous jeu qui passe en hebdomadaire. Donc, j'espère que ça vous plaira. Hein. Deuxième semaine de septembre. Troisième semaine de septembre, il va y avoir encore des nouveaux trucs. J'explore une autre dimension, une nouvelle dimension pour moi et pour vous. Quatrième semaine, il va y avoir une simplification du Patreon. Et pourquoi je le fais dans cet ordre ? Il y aura a priori disparition du niveau 2 du Patreon qui donne accès au Discord complet et quelques autres bonus. Donc, si vous voulez avoir accès à ça, vous pouvez jusqu'à fin septembre vous abonner. Bien sûr, les gens qui l'ont auront toujours l'accès, hein, évidemment. Donc, je vais voir, je veux simplifier le Patreon. En fait, il est un petit peu trop complexe et donc je vais supprimer certains niveaux. On va voir exactement ce que je vais faire, mais c'est ce que je pense faire. Dans tous les cas, si vous voulez soutenir l'émission, bah, c'est grâce à vous qu'elle existe, c'est grâce à vous qu'elle est disponible gratuitement pour tout le monde. Et si vous l'aimez bien, si vous appréciez l'idée qu'on ait l'émission toutes les semaines, bah, je vous encourage à venir la soutenir sur Patreon, patreon.com/rdvjeu. Le lien est également dans les notes de l'émission. Et quoi qu'il arrive, si vous avez une minute à perdre, si vous pouvez nous laisser un petit commentaire sur iTunes, ça serait super cool, parce que le moyen dont les gens découvrent les podcasts, c'est beaucoup par iTunes, et avec les commentaires, ça nous permet d'être un petit peu plus visible, enfin en tout cas de recommander aux gens d'écouter l'émission, parce qu'ils regardent les commentaires souvent avant de s'abonner. Donc si vous avez un moment à perdre sur iTunes ou sur Podcast Addict ou votre application de podcast, bah laissez un petit commentaire, une petite note, ça serait super cool. Et puis dans tous les cas, patreon.com/rdvjeu pour soutenir. Merci à vous tous, je vous fais des gros bisous.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Et on continue les infos avec Call of Duty.
Call of.
T'es une grande fan de Call of, toi, bien sûr.
J'adore.
T'adores Call of.
Je suis plus Team Battlefield, hein, en vrai.
C'est vrai ?
Je suis plus BF que Call of, ouais.
D'accord. Bah, écoute, moi, je suis un petit peu plus Call of que BF, mais je suis ni BF ni Call of, en vrai. Encore que, franchement, Call of, on s'en moque beaucoup, mais je pense que tout le monde... Tous les joueurs au monde ont passé de bons moments sur Call of. Et oui, je pense que la plupart des joueurs au monde ont relancé Call of quand il y a eu Warzone qui est sorti, le Battle Royale. Et je pense qu'il est remonté un petit peu dans l'estime des gens depuis le dernier Modern Warfare et Warzone. Et donc, le prochain qui sortira cette année, ça sera Black Ops Cold War le 13 novembre. Et on a un trailer et quelques infos. Alors, ce n'est pas la folie, le trailer, hein, c'est juste un Black Ops qui a l'air Black Ops-ieux. Mais il y a le mode zombie qui revient. Et puis surtout, il y a eu une promo dans Warzone que j'ai trouvée magnifique. Je ne sais pas si tu as regardé de quoi il s'agissait, de cette promo dans le jeu Warzone, mais c'était hyper bien foutu.
Non, j'ai regardé le trailer, mais ça ne m'a pas...
En fait, c'est autre chose. En dehors du trailer lui-même, ils ont mis dans Warzone, donc dans le jeu, hein, dans le Battle Royale Warzone, pendant, je ne sais plus, une ou deux heures, il n'y avait plus qu'un seul mode de jeu. Donc, on ne pouvait pas jouer au Battle Royale normal, on pouvait juste jouer au mode Cold War. Et dans ce mode Cold War, c'était un truc, il fallait se courir vers les bunkers et se planquer dans les bunkers. Et quand tu t'étais planqué dans les bunkers, au bout d'un certain temps, tu étais téléporté. Ailleurs, il fallait courir vers le stade. Et il y avait des avions qui passaient au-dessus, des avions de chasse qui passaient au-dessus. Et le cercle qui se refermait vers le stade. Donc, il fallait courir sans s'arrêter. Et ça mettait pendant tout ce temps, en surimpression, des éléments du trailer. Avec des trucs qui disaient... Qui expliquait comment les Russes avaient planifié l'invasion des États-Unis en plusieurs étapes, enfin le remplacement du gouvernement américain, bref. Et quand tu arrives au stade, tu finis par rentrer, et puis après, ça te joue le trailer de Cold War. Et c'était tellement malin. Alors, c'est du marketing, hein, c'est de la promotion 100%, mais c'était hyper malin. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien foutu.
Oui, je me dis, quand est-ce que les Russes font leur propre version de Call of Duty, Cold War, mais vu de l'autre côté.
Moi, je suis un adepte de me faire l'avocat du diable. Je peux te dire que, vu de l'autre côté, des deux, je ne suis pas convaincu qu'il n'y en ait pas un qui ait plus raison que l'autre.
Stalker Pripyat, en fait. Là.
Ouais, voilà, c'est un petit peu moins... tiens, à propos de dystopie, en fait, pour passer, d'une part, il sera disponible sur PlayStation, enfin, génération actuelle et génération à venir, et il sort le 13 novembre. Je me demande si ça ne veut pas dire que la PlayStation 5 sortirait le 13 novembre. Bon, ils ne sont pas forcément calés sur la même date, mais possible. Et si vous achetez la version PS4, si vous achetez en numérique, en fait, tout va bien. Version console actuelle, c'est le prix actuel, donc 70 euros. Enfin, en dollars, en tout cas, c'est le prix dont on avait parlé à l'époque de NBA 2K. C'est 70 dollars au lieu des 60 pour la génération future. Donc le prix augmente en passant à la génération future. Je ne sais pas si on a déjà le prix en euros, mais j'imagine que ça sera les 75 dont on parlait à l'époque. Et si vous achetez la version génération actuelle, vous n'avez pas droit à la version génération future. Il faudra payer le supplément pour upgrader. Mais vous pouvez acheter un pack cross-génération qui est au prix de la génération future, donc 5 ou 10 euros de plus, enfin 5 euros de plus, j'imagine, et vous aurez donc les deux versions. En gros, ce que ça veut dire, c'est que soit vous achetez la version au prix normal sur génération actuelle et vous avez la génération actuelle, soit vous achetez la version au prix de la génération future et vous avez les deux pour pouvoir jouer sur la génération actuelle avant que la version d'après arrive.
Ouais, donc autant prendre celle-là si tu as déjà prévu de prendre la PS5 à son lancement, quoi.
C'est ça.
Mais est-ce que... J'allais dire, est-ce que tu sauras... Je faisais une réflexion, mais qui n'a pas de... On l'a dit, donc elle n'a pas d'intérêt.
D'accord. Un truc qui a un intérêt, c'est de se demander si la version disque physique sera incluse. Et là, c'est le mystère. comment faire si tu as acheté la version PS4 pour passer à la version PS5? Parce qu'il faudra avoir le disque. Alors peut-être qu'il faudra mettre le disque PS4 dans la PS5 et jouer à la version PS5 que tu as acheté en plus dans la... Enfin bon, bref, on ne sait pas.
Ouais, j'imagine qu'ils ont prévu le truc.
Oui, certainement. Ils ont prévu le truc, j'en suis sûr. Est-ce que ça sera simple? C'est une autre histoire.
Et vu que la PlayStation 5 sera rétro-compatible PlayStation 4, il n'y aura pas de problème.
Ah bah, tu pourras jouer au jeu version PS4, j'en suis convaincu, sur ta PS5. Ouais, ouais. La question, c'est est-ce que tu pourras jouer au jeu version PS5 en ayant acheté le jeu PS4 et en payant un petit truc en plus si tu l'as acheté en physique? Ça, c'est moins sûr. Mais tu sais quoi, toutes ces questions, en fait, c'est vrai que la rétrocompatibilité, c'est important, mais toutes ces questions, ça va durer un an et après, on s'en foutra, quoi. Les jeux seront... Ça sera réglé.
Oui, c'est souvent ce qui se passe. On remarque que c'est toujours une question critique au moment de l'annonce d'une console et puis ça finit par se tasser, forcément.
C'est ça. L'autre gros morceau, c'est évidemment le combat entre Epic et Apple. Je ne sais pas si tu as vu.
Le feuilleton de l'été.
C'est le feuilleton, ça va être le feuilleton des années à venir, je crois.
Oh là là.
Mais encore plus important que ce combat, c'est le fait que, enfin, qui a une conséquence sur le combat. Je ne sais pas si tu as vu, mais la nouvelle saison de Fortnite saison 2, enfin le nouveau chapitre, ou je ne sais plus lequel est le chapitre et lequel est la saison, mais là, il y a une invasion des héros de Marvel qui arrivent dans Fortnite. Il y a Thor, Wolverine, Storm, She-Hulk, Iron Man, enfin plein de persos qui arrivent. D'après le trailer, j'ai presque l'impression qu'il y a un mode PVE quelque part. Ça n'a pas l'air d'être dans Fortnite Save the World, mais il y a genre un truc à faire avec des persos de Marvel. Donc ça veut dire que je vais devoir jouer à Fortnite, quoi. Je panique.
Je pensais que tu jouais déjà.
Oh, j'ai joué 2-3 fois, mais en fait, je suis comme beaucoup des auditeurs de cette émission, j'ai l'impression. La partie Battle Royale, ça ne me gêne pas. La partie construction, j'y arrive juste pas. Enfin, j'y arrive, mais normalement, tu vois, les gens qui jouent beaucoup à Fortnite, c'est des sortes de virtuoses, c'est comme des pianistes virtuoses sur leur clavier pour construire les trucs, et moi, j'y arrive pas, donc...
Ouais, je pense qu'il faut un certain entraînement main-cerveau avant de réussir à faire quelque chose.
Exactement. Et du
tu te sens trop vieux quand tu joues à ce genre de jeu, tu te dis je suis plus fait pour ça.
Mais je sais pas si tu avais vu les joueurs qui jouent sur mobile. Si tu veux te sentir vieux, va voir des gens qui jouent. Je sais plus comment il s'appelle ce site de streaming de Tencent. Ah, j'ai oublié le nom. Mais ils streament, j'en avais parlé dans l'émission, ils streament beaucoup sur mobile. Et ils ont des tablettes et ils ont des petits, tu sais, pas des gants, mais des trucs que tu mets sur le doigt, je sais pas, pour que ça glisse mieux ou je sais pas quoi. Et ils montent souvent leur écran et ils filment leurs doigts sur leur tablette. Et tu vois comment ils jouent, mais c'est incroyable. Tu sais, quand on se dit, les téléphones et les tablettes, c'est pas précis, les touch control, machin. Quand je parle de virtuose, mais c'est 10 fois pire. C'est incroyable.
Déjà, c'était impressionnant à notre génération avec les joueurs de StarCraft, par exemple, tu vois. Mais alors, j'imagine sur un truc pas plus complexe, mais en tout cas avec des choses différentes à gérer de façon physique, j'imagine qu'il faudrait que j'aille voir ça. Ça va être impressionnant.
Il faudrait que je retrouve le nom de ce site de streaming. Il y en a deux, des sites de ce type-là. Et c'est ça fait penser à StarCraft en fait, sauf que c'est sur une surface tactile. Bref, Peu importe, ce à quoi on arrivait, c'était que bah, cette saison arrive, mais elle ne va pas être disponible sur iPhone et iPad. Parce que bah, le combat entre Epic et Apple continue à s'intensifier. On en a parlé la semaine dernière, donc je ne vais pas refaire tout un topo là-dessus, mais en gros, le juge qui décidait dans la motion préliminaire a dit que Epic a le droit d'avoir son compte développeur et donc de gérer Unreal Engine, donc Apple doit rétablir ça. Par contre, Apple n'est pas obligé de rétablir Fortnite sur l'App Store pendant que le jugement se produit. Et donc, il appartient, d'après la justice, à Epic de décider de retirer la mise à jour qu'ils ont glissée en douce pour permettre aux joueurs de ne pas passer par le système de paiement d'Apple. Donc, s'ils mettent à jour leur jeu pour retirer cette fonction, bah, Apple peut remettre le jeu sur l'App Store et les joueurs peuvent jouer à Fortnite et donc à cette nouvelle saison, ce nouveau chapitre. Mais Epic ne semble pas prêt à le faire. Ils continuent dans leur combat. Alors, je laisserai chacun juger si c'est une bonne idée ou pas. Mais les étapes légales vont continuer. La prochaine, c'est le 28 septembre. Et puis, ça va continuer après, dans les mois à venir, pour le vrai procès. Mais jusque-là, a priori, non seulement Fortnite ne sera pas disponible avec cette mise à jour sur iOS, mais en plus, le cross-play va disparaître, le cross-save va disparaître. Enfin, ça devient sérieux, quoi. Et surtout, les joueurs de l'écosystème Apple vont pas pouvoir jouer à ce crossover Marvel et Fortnite. Les pauvres.
Ouais, je me dis que le pire, parce qu'au final, tu vois, je trouve que la décision le compromis qu'il met en place en attendant le début du procès est pas si mal, mais enfin derrière, les pauvres joueurs qui ont potentiellement dépensé des fortunes dans ce jeu-là, qui sont privés de leur jeu du jour au lendemain, et tous ces pauvres parents qui sont en train de pleurer d'avoir dépensé de l'argent pour rien.
Ouais, je pense aussi. Bon, après, il y a une solution simple, hein, t'achètes une Switch et puis voilà, les enfants peuvent continuer à jouer.
Oui, ils jouent sur une autre plateforme, ouais.
C'est à peine 300 euros. C'est rien du tout, une Switch. C'est facile.
Est-ce que tu peux récupérer sur ton compte tous les achats que tu as fait sur une autre plateforme?
Ah bah normalement, sûr, hein. Oui, il y a du cross-save. Si, sur Fortnite, il y a du cross-save.
Tu peux? Bon, d'accord.
Mm-hmm. Oui.
D'accord. Mais donc, ça veut dire que tu peux avoir acheté des trucs sur Apple, avoir versé de l'argent à Apple et récupérer sur une autre plateforme qui n'a pas perçu d'argent ce que tu as acheté sur une autre plateforme.
Yep. Bah, c'est comme ça sur tous les jeux qui sont en cross-save. Hein. Et c'était d'ailleurs ça le cœur du refus de Sony pendant longtemps d'autoriser le cross-save. Ce qu'ils ne voulaient pas, c'était que des gens aillent acheter sur une autre plateforme moins chère des trucs qu'ils proposaient, ouais, aussi et qu'ils viennent les utiliser sur PlayStation. Alors bon, personne s'emmerde à faire ça. Enfin, si, peut-être certains, mais c'est assez rare. Et puis, généralement, les prix sont alignés sur toutes les plateformes. Donc, j'imagine qu'elles ont toutes une clause, genre le prix, à certaines exceptions près, doit être le plus bas sur notre plateforme ou un truc comme ça.
Ouais. Au final, le cœur du débat, c'est combien touche le studio derrière. C'est ça. On l'avait bien compris.
Exactement, ouais. Bon, on verra ce que ça donne pour Epic et Fortnite. En attendant, si vous voulez, si vous avez un petit peu trop de temps et que vous voulez regarder un truc cool, on a testé pour vous la série High Score sur Netflix. Alors, c'est pas un jeu vidéo, mais ça parle de jeux vidéo. C'est un documentaire sur l'histoire du jeu vidéo. Et qu'est-ce que tu en as pensé, Eska ?
Alors, moi, j'ai bien aimé la forme. J'ai trouvé que c'était une forme qui était assez ludique, qui fait intervenir pas mal d'acteurs différents. Alors, il y a beaucoup de figures très iconiques du jeu vidéo qui parlent, hein, que ce soit des Japonais ou des Américains. T'as vraiment ils ont réussi à interviewer des grands acteurs de tous les domaines, des game designers, des artistes, des gens un peu plus tech. Je trouve que dans l'ensemble, c'est pas mal, c'est assez divertissant à regarder. Quand tu connais déjà un peu l'histoire du jeu vidéo, t'apprends pas grand-chose. Il y a pas mal d'approximations, il y a même des erreurs qui ont été relevés sur des sites, je vous laisserai aller regarder. Donc, il y a quelques erreurs, on va dire, d'ordre historique, mais quand tu ne le sais pas, c'est pas dramatique. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une série Netflix, donc c'est tourné d'un point de vue américain. Donc, en gros, c'est plus l'histoire du jeu vidéo aux États-Unis que l'histoire du jeu vidéo tout court. Tu vois, ils partent de la base, ils partent des plus vieux jeux, encore une fois, ils éclipsent certaines choses. Hein, faut vraiment réussir à faire le tri. Mais je trouve que, voilà, ils te disent, par exemple, ils vont parler de Nintendo et en fait, tu te rends compte qu'ils vont plutôt parler de Nintendo of America que vraiment de la création de Nintendo au Japon. Donc, ils te parlent très rapidement de ce qui s'est passé au Japon. D'ailleurs, il me semble que tous les épisodes commencent par des plans au Japon et très rapidement, ça s'axe plutôt sur l'histoire du jeu vidéo, comment ça s'est implanté aux États-Unis, les réussites aux États-Unis, etc. Une fois que tu acceptes ce postulat de base, je trouve que la série, elle se regarde plutôt bien, elle est divertissante. Et moi, ça m'a permis de voir des interviews de créateurs que je n'avais pas forcément vues avant. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir Carmack parler, de voir Garriott parler. C'est des gens dont tu te délectes de ce qu'ils ont à dire parce que c'est l'histoire du média qu'on aime. Donc moi, j'ai passé un bon moment. Après, voilà, si vraiment vous n'avez jamais... vous n'êtes jamais renseigné sur l'histoire du jeu vidéo. C'est une bonne base pour commencer, mais ne vous arrêtez pas là. Et après, je pense qu'il faut aller dans les bouquins, etc., pour être dans des choses un peu plus sérieuses, un peu plus profondes.
Ouais. Écoute, moi, j'ai beaucoup aimé la série. Je la trouve super bien. Et j'ai un certain ressentiment pour les gens qui remontent leurs lunettes sur leur nez, tu sais, en disant « Ah ouais, mais sur tel truc, ils n'ont pas dit qu'en fait, c'était comme ça. Et en fait, ils parlent beaucoup des États-Unis. Ils disent pas ce qui s'est passé en Europe. » Ils parlent énormément du Japon, énormément. Alors oui, ils disent pas comment ça s'est passé commercialement au Japon et les sorties et les trucs. Mais le jeu vidéo, je suis désolé de l'apprendre aux Européens, ça s'est développé aux États-Unis. Et au Japon, tous les gros créateurs, enfin une grosse partie des créateurs, il y avait des studios en France et en Europe, mais l'essentiel, c'est dans ces deux pays. Et oui, évidemment, Netflix, c'est une société américaine, on est d'accord.
Eh oui.
Et donc oui, ils vont parler, c'est vrai qu'ils parlent plus des États-Unis, mais c'est un truc qui est, oui, grand public, c'est pas un pavé de 300 pages sur la création de la Dreamcast, quoi. Ils parlent de l'histoire en général, il y a plein de choses que j'ai appris, que je ne savais pas, et pourtant je connais un petit peu l'histoire du jeu vidéo. Moi, je trouve que les gens qui disent « Ouais, on n'apprend rien », ok, si tu es une encyclopédie vivante du jeu vidéo, peut-être que tu savais déjà tout, mais c'est un truc Netflix qui est censé s'adresser à énormément de monde. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a un élément Netflix qu'on retrouve dans... il y a plein de séries de ce type, en fait, « The Toys That Made Us »,« The Movies That Made Us », ou même Top Chef, pas Top Chef, pardon, Chef's Table. Il y a un élément humain qu'on n'a généralement pas dans les documentaires de ce type. Il y a vraiment une histoire qu'ils construisent avec des éléments humains. Alors après, oui, c'est un petit peu construit. Encore une fois, ce n'est pas une encyclopédie, ce n'est pas un truc académique, quoi. Mais il y a un élément humain qui est souvent assez touchant. Ils vont sortir des gens dont tu n'as pas forcément entendu parler, mais genre le gagnant du championnat international Nintendo de 1987, tu vois. Et ils réussissent à t'humaniser le truc et à te faire passer un petit peu. Peut-être que ce n'est pas historiquement 100% juste, mais ils te font passer le sentiment, les émotions que ça pouvait créer de vivre cette période. Tu vois?
C'est vrai, je trouve que tu as vraiment un regard très bienveillant sur le jeu vidéo dans cette série. Tu ressors de là, ça ne diabolise pas du tout le jeu vidéo. Et pourtant, il y a un épisode qui est dédié à la violence dans le jeu vidéo. Et justement, il t'explique la naissance, notamment autour de Mortal Kombat, la naissance de ces jeux vidéo violents. Enfin voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le côté, ça remet les choses du point de vue de l'humain. Et tu vois, typiquement parler de ces joueurs qui ont fait des gros concours à l'époque, je sais plus ce qu'il y avait, il y avait Tetris, des choses comme ça. Mm-hmm. Ils stigmatisent pas du tout les joueurs, ils les interviewent et au contraire, tu vois que pour ces personnes-là, à l'époque, le jeu vidéo, c'était un exutoire, c'était quelque chose qui leur permettait d'être eux-mêmes. Je trouve qu'effectivement, d'un point de vue humain, c'est très positif ce qui ressort de cette série, sans pour autant être trop naïf.
Ouais, ils sont très conscients de ce que c'est. D'ailleurs, ils en jouent, quoi. Ils montrent les gens qui faisaient ces trucs dans les années 80 avec la mode des années 80, machin, et puis eux-mêmes, ils sont bien conscients qu'ils sont un petit peu nerdy, tu vois, et qu'ils l'étaient à l'époque, ils le sont encore un peu aujourd'hui. Mais c'est bien trouvé le terme, c'est vraiment bienveillant à tout point de vue, sans être artificiel, quoi. C'est pas genre, ouais, c'était les champions, c'était les gentils incompris, machin. Non, c'est marrant, ils étaient un petit peu ridicules. Ils savent qu'ils étaient un petit peu ridicules, mais c'était quand même un truc qui était important pour eux. Enfin, de ce point de vue, moi, je trouve que c'est une super série. Et dans l'ensemble, je craignais justement de ne rien apprendre du tout. Ça n'a pas été le cas. Par tous ces petits éléments, par exemple, des concours qu'on n'avait pas en Europe.
Plein d'anecdotes.
Plein de petites anecdotes. Il y a des trucs dont parle Romero. Tu parlais de Carmack tout à l'heure. On voit beaucoup Romero dans l'épisode sur Id et Doom. J'ai trouvé ça vraiment très bien foutu. Ces 6 épisodes, ça va de l'Atari à... Ils ont retrouvé d'ailleurs, je ne me souviens plus de son nom, mais le producteur de E.T. sur Atari.
Oui. Ça commence par ça d'ailleurs, la série.
Exactement. Et même lui, il a un regard complètement... conscient et ouvert sur ce qui s'est passé avec ça. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont lu des interviews de ce mec et qui savent déjà tout. Ok, très bien pour vous. Mais moi, je ne le connaissais pas et je ne connaissais pas exactement. Derrière ces ratages industriels complets, il y a toujours des histoires et des raisons et des explications. Et là, ils en parlent beaucoup et ils expliquent ce qui s'est passé. Au-delà de juste Atari s'est mis à produire trop de jeux et E.T. A été produit trop vite, ce qu'on savait, effectivement, il a été produit en 4 mois, machin. Ça va un petit peu plus loin. Et ça ne va pas te couvrir toute l'histoire, mais bref, vous avez compris, moi je trouve ça très bien.
C'est une première approche grand public. C'est sûr que les gens qui connaissent déjà un minimum l'histoire du jeu vidéo ne vont pas forcément apprendre 40 000 trucs, mais j'ai envie de dire que si tu n'es pas satisfait par le contenu historique et documentaire de ce genre de série, c'est que tu n'es peut-être pas le public et que, comme je disais tout à l'heure, et à ce moment-là, va voir dans les bouquins, va voir dans des choses un peu plus spécialisées. Là, on parle quand même de Netflix, quoi.
Ouais, exactement. Et donc, ça va de Atari à Doom. C'est à peu près cette époque.
Je crois que c'est ça, ouais.
Et donc, je suis sûr qu'ils vont faire une saison 2. Et moi, je l'attends déjà avec impatience.
Je ne sais pas si elle cartonne, cette série-là. Mais en tout cas, on en entend pas mal parler. Après, le problème, c'est que nous, on est un peu dans une bulle. Donc forcément, les gens qu'on suit et les gens qui nous suivent en parlent beaucoup. Je ne sais pas si elle rencontre un vrai succès ou pas. Ça, j'ai pas.
Je pense que ça coûte tellement peu à produire que pour Netflix, tu vois, c'est tout calculé. Ils sont dans leur spreadsheet et dans leurs données. Ils se disent, il y a un public pour ça. A priori, ça marche pas trop mal. Moi, je pense qu'ils feront une saison 2.
Ouais, j'espère parce que c'est vraiment chouette à regarder pour le coup.
High Score sur Netflix. Allez, quelques petites news en vrac. The Witcher va avoir son Pokémon Go. Et là, c'est un petit peu. Pourquoi ?
J'ai pas compris non plus.
Alors, ça se trouve, ça va bien marcher, hein, mais bon. Je pense pas que les fans de The Witcher sont des gens qui vont vouloir y jouer en mode Pokémon Go. Peut-être qu'en Pologne, parce que c'est tellement gros qu'ils vont s'y mettre, mais
Je sais pas combien d'années après Pokémon Go. Enfin, là, je vois pas trop l'intérêt. Mais...
Bah, si le jeu Harry Potter Pokémon Go n'a pas marché, et il semble ne pas avoir très bien marché, je suis pas convaincu que celui-là fonctionnera. Bon, on verra, hein, peut-être qu'on se trompera. Est-ce que tu as vu le trailer de Black Myth Wulong, un jeu chinois sur vous savez, le mythe du roi des singes, enfin la légende du roi des singes, donné l'histoire de Dragon Ball et Son Goku, qui est un très très beau jeu d'un studio chinois qui va sortir sur PS5 et qui est, je ne sais plus, il y a 13 minutes de gameplay. C'est assez beau, mais... J'ai vu Twitter qui est devenu complètement fou pour ce trailer. Il a l'air sympa, effectivement. Mais je n'ai pas compris pourquoi c'était à ce point la folie, quoi. Pendant 24 heures, tout le monde s'excitait sur ce truc et c'était genre le plus beau truc de l'histoire. Il est beau, hein, je ne dis pas, mais...
Je pense que c'est le fait que ça sorte d'un peu nulle part et que tu as vraiment un sentiment de jeu fini, hein, quand tu regardes ce trailer-là. Tu as l'impression que le jeu il peut sortir demain. Visuellement, il est très, très... très réussi, il est très beau. Après, c'est vrai qu'il y a une esthétique. Je trouve que les studios asiatiques et chinois en particulier, ils ont cette esthétique un peu particulière que moi, parfois, j'ai un peu de mal. Je trouve que c'est un peu trop propre, un peu trop. Ça brille de partout. Tu vois. J'ai un peu de mal avec ça. Mais c'est vrai que le jeu est sympa. Enfin, il est original, en tout cas. Des jeux sur le roi singe, il y en a eu plein à interpréter plus ou moins, mais. Ça te donne l'impression, voilà, d'un jeu avec un univers original et qui a l'air quasiment fini. Et visuellement, il faut quand même avouer que ça en jette, quoi. Donc, peut-être que ça a suffi à enflammer tout le monde parce que ce jeu-là, du jour au lendemain, personne n'en entendait parler et d'un seul coup, tout le monde en parle, quoi. Donc, faut espérer qu'il soit aussi bien qu'il est beau.
C'est vrai qu'il est vraiment sorti de nulle part, t'as pas tort. Et d'ailleurs, le développeur s'est fendu d'un communiqué après que le monde se soit enflammé en disant « Ah, je suis désolé d'avoir fait un jeu, d'avoir présenté un trailer qui soit aussi moche, les réflexions sur l'eau sont pas finies, les trucs ici sont pas optimaux, ici il y a du pop-in de texture. » C'était marrant parce que tu disais « Mais attends, ton truc, c'est le truc le plus beau qu'on ait vu sur la prochaine génération. »
On va lui sortir les images de Surgeon Simulator 2 là, qui est annoncé il n'y a pas longtemps.
C'est un peu ça, ouais. Layu Technologies va se faire racheter par Tencent. Layu Technologies, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est un gros groupe de studios dont Digital Extremes, c'est bien ça, Digital Extremes, qui fait Warframe. Donc Tencent continue à racheter un petit peu de tout partout, voilà, comme on parlait de la Chine. Et d'ailleurs, Warframe a maintenant sa nouvelle expérience pour les nouveaux joueurs. Donc, c'est à l'époque, moi, j'avais lancé Warframe, c'était bien confusing. J'avais joué pas mal à Warframe. Je vais peut-être le relancer pour voir comment ça se passe avec l'expérience de départ, qui est censée être bien meilleure aujourd'hui. Elle avait été présentée l'année dernière. Je le relancerai peut-être à un moment. Et enfin, on a une date pour Yakuza Like a Dragon, donc Yakuza 7, pour l'arrivée en français, PS4, Xbox One et PC. Est-ce que tu peux deviner la date, Maïté ?
Allez, au pif, le 13 novembre.
Et pourquoi tu dis le 13 novembre ? Parce que
ce sera la sortie de la PS5.
Peut-être,
on l'a dit tout à l'heure.
Bon, il est annoncé sur PS4, Xbox One et PC. Hein. Il n'est pas annoncé sur les autres consoles. Donc, peut-être pas, mais c'est un autre 13 novembre. Ah, ça fait beaucoup de 13 novembre.
Beaucoup, hein.
C'est vrai. Donc, bon, si vous attendez ce jeu-là, ça sera le 13 novembre pour vous. Et c'est notre dernière news du jour. Donc, je remercie très, très chaleureusement Maïté d'avoir été avec moi pour cet épisode.
J'espère avec plaisir.
Que tu as passé un bon moment et que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet ?
Bien sûr. Alors, bah, déjà, ici, tous les deuxièmes jeudis du mois. sinon, bah, sur Twitter, @escarina_. Après, donc, je suis rédac-chef d'un site d'actu geek qui s'appelle Kiss My Geek. Et puis, plus ponctuellement, chez Super Gamerside, un autre podcast jeux vidéo pour les sales gosses, on va dire.
Très bien dit, très bien dit. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Plus simple encore, vous pouvez aller sur notepatrick.com et vous avez tous les liens vers les réseaux sociaux, mais aussi vers la newsletter. Il y a un mini formulaire pour s'inscrire à la newsletter dont je parlais tout à l'heure et qui va devenir hebdomadaire début septembre. Donc abonnez-vous maintenant, c'est le moment. Et si vous voulez soutenir l'émission, vous allez sur patreon.com/rdvjeux. C'est hyper simple, patreon.com/rdvjeux pour soutenir l'émission. Et un immense merci à ceux qui le font déjà. Si vous êtes dans les transports en commun, si vous êtes dans votre voiture, bah, c'est peut-être pas maintenant que vous pouvez le faire, encore que dans les transports, vous pouvez aller sur le site Patreon depuis votre mobile, c'est très très simple à faire. Mais quand vous rentrez à la maison, comme je le dis régulièrement, vous arrivez chez vous, vous mettez les clés dans le petit bol, ça fait cling, et là vous dites « Oh, cling, Patrick !» Faut que je pense à Patrick, faut que je pense à devenir patriote sur patreon.com/rdvjeux. Super simple. Merci Patrick de m'avoir rappelé que je dois devenir ton patriote. Bon, vous n'êtes pas obligé de dire tout ça, hein, mais vous pouvez y penser. Un grand merci à vous dans tous les cas. Rendez-vous le 10 septembre si tout va bien pour le prochain épisode. Et puis à partir de là, toutes les semaines. Rendez-vous toutes
incroyable.
Les semaines après le 10 septembre. Ah, oh, je suis super excité. Ça va être vraiment cool de pouvoir en parler, de ne pas devoir attendre deux semaines pour parler de ce qui se passe dans l'industrie. Parfois, c'est très, très cool. Je vous fais de grosses bises à tous. Merci, Eska, d'avoir été avec moi. Et on se retrouve très, très vite. Ciao, ciao.
Hey.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.